Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Longtemps, et notamment après 1989 et la chute du mur de Berlin, les Européens ont cru que le reste du monde allait, par capillarité peut-être, ressembler à l'Union Européenne. Un espace de paix, de liberté dans le respect des minorités, doté d'un État de droit et d'un capitalisme régulé par un État-providence. Or, il n'en est rien. Une succession de crises, l'euro, les migrants, le Brexit, le Covid, ont mis à mal cette perspective, alors même que son environnement géostratégique se raidissait avec Xi Jinping en Chine, Vladimir Poutine en Russie ou Recep Tayyip Erdogan en Turquie, sans oublier l'épisode Donald Trump qui a rappelé aux Européens que le parapluie américain n'était pas forcément éternel. Entre la Chine et les États-Unis, l'Union Européenne doit désormais trouver sa place, sortir de sa naïveté et de sa léthargie géostratégique, bref, en finir avec son innocence. Deux invités, deux penseurs de l'Europe nous ont rejoints pour disséquer les défis qui vont s'imposer à l'Europe, tantôt en studio, tantôt par téléphone. Bonjour, Luc Van Middelaar.
Bonjour, monsieur Desescal.
Vous êtes philosophe, politique, vous êtes néerlandais, vous êtes historien, vous êtes professeur de droit européen à l'université de Leiden. Vous avez été aussi, entre 2010 et 2014, la plume d'Herman Van Rompuy. Il était le premier président permanent du Conseil européen. Votre dernier livre, qui est sorti il y a environ 18 mois, en tout cas en français, s'intitule « Quand l'Europe improvise », et on va évidemment y faire référence au cours de cette émission. Il est sorti chez Gallimard et bien évidemment encore disponible. Et puis, vous venez de donner une série de conférences au Collège de France. D'ailleurs, la dernière leçon, la dernière conférence, ce sera mercredi prochain, 14 avril, à 19h30, sur le thème du récit européen de l'Europe qui entre dans l'histoire. Ça va être un petit peu le thème aussi de cette émission. Donc, c'est comme une bande-annonce de votre conférence de mercredi prochain. Gilles Finkenstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Merci d'être en téléphone. Je regrette que vous ne soyez pas en studio avec nous, mais la pandémie nous oblige à n'avoir qu'un seul invité en studio. Vous m'envoyez fort désolé, Gilles. Vous êtes donc le directeur de la Fondation Jean Jaurès. En deux mots, la Fondation Jean Jaurès.
En deux mots, la Fondation Jaurès est une fondation de réflexion politique créée un peu sur le modèle des grandes fondations politiques allemandes, qui est à la fois un lieu de mémoire, puisque nous gérons toutes les archives du mouvement socialiste, mais qui est aussi un espace de coopération politique internationale et un centre de réflexion, d'élaboration, de programmes et de propositions.
Et puis, comme chaque semaine, nous ferons des tours par la rédaction de Courrier International ce dimanche avec Sacha Michel. Alors, Luc Van Middelaar, nous n'allons pas refaire toute l'histoire de la construction européenne, on n'a pas le temps, mais on peut dire tout de même que longtemps, l'Union européenne a été plutôt contente d'elle-même. Au lendemain de la catastrophe absolue de la Deuxième Guerre mondiale, à partir de la réconciliation franco-allemande, elle a réussi à construire un espace de paix, de prospérité où règne l'État de droit. D'ailleurs, partie de 6 pays, elle a tiré, elle, presque tous les pays du continent. Autre exemple de son pouvoir d'attraction, lorsqu'un migrant d'Asie, du Moyen-Orient ou d'Afrique veut fuir son pays, pour des raisons politiques ou économiques, bien son regard et son espoir se tournent vers l'Europe. Alors, à la veille du grand tournant de 1989, donc je rappelle la chute du mur de Berlin marquée, diriez-vous que l'Europe était en pleine léthargie et que, persuadé que dans un excès d'universalisme, le monde, tôt ou tard, allait lui ressembler?
Oui, tout à fait. Je crois que le moment de 89, la fin de la guerre froide, dans un premier temps, ça a vraiment confirmé l'idée européenne et l'image qu'elle avait d'elle-même. C'est-à-dire, voilà, nous allons construire, on l'avait fait sur notre continent, disons, un monde du marché, du droit, de la prospérité, de la paix, etc., comme vous l'avez dit. Et en 89, on a cru que ce modèle-là, on allait maintenant l'exporter au reste du monde, et que non seulement les Européens, mais tous les continents allaient bientôt vivre dans un ordre multilatéral, comme on dit, avec des institutions internationales puissantes sur le modèle européen, etc. Or, il n'en est rien, et ça, c'est d'une part les grandes crises intérieures, dont on peut parler un peu après, plus tard, mais notamment, je pense, le changement du paysage géopolitique. C'est que nos grands voisins, la Russie, la Turquie, mais aussi les deux superpuissances que sont non seulement les États-Unis, mais surtout aussi la nouvelle Chine, n'agissent pas conformément à ce scénario. En fait, ils font de la politique de puissance à l'ancienne. Et on a beau dire que ça ne se fait plus, que c'est plus le 19e siècle, que c'est le 21e siècle. Monsieur Poutine ou Xi Jinping ou Trump, ils pensent pas comme ça. Et donc, l'Europe doit regarder la chose en face, comprendre que le modèle qu'on a chez nous et qu'on a toujours chez nous, et d'ailleurs qu'il faut conserver, mais c'est pas un modèle d'exportation et qu'il faut à présent plutôt le défendre que penser qu'on peut l'éteindre.
Alors, Gilles Finkelstein, je vais faire une petite parenthèse, mais vous êtes un grand spécialiste de l'étude de l'opinion européenne. Cette prise de conscience que finalement le monde n'allait pas ressembler à l'Europe, que d'autres pays ont connu des réussites sans copier forcément notre modèle, que ce soit, évidemment, la Chine est un parfait exemple de cette réussite, mais ça a été, c'est toujours un traumatisme pour les Européens.
Oui, c'est un traumatisme pour les Européens, mais les Européens ont partagé cette illusion que vous évoquiez tout à l'heure. Pour rebondir sur ce que disait Luc Van Mibella, quand on se replonge dans les 30 dernières années, je crois qu'il y a eu, en gros, de la chute du mur de Berlin jusqu'au référendum sur le traité constitutionnel, c'est-à-dire entre 1989 et 2005, non pas une léthargie, comme vous l'avez évoqué, mais plutôt de l'illusion. Je crois qu'on ne peut pas parler de léthargie au sens où l'Union européenne s'est fixée pendant cette période-là des objectifs qui étaient des objectifs extrêmement ambitieux. C'est à ce moment-là qu'on décide de faire l'euro, qui est un projet presque impensable dans la période précédente, et c'est dans cette période-là qu'on lance l'élargissement, là aussi qui était un projet impensable avant 1989. Donc l'Europe n'est pas en pleine léthargie, mais c'est ça l'illusion, c'est qu'elle se pense uniquement, principalement par rapport à elle-même. Dans un moment, il faut le dire, dans lequel la Chine est beaucoup plus faible économiquement et beaucoup plus isolée diplomatiquement, dans lesquelles la force d'attraction de l'Europe est extrêmement forte, aussi bien vers les pays scandinaves que vers les pays d'Europe centrale et orientale. Et donc, elle se pense par rapport à elle-même, c'est-à-dire que ses grands projets sont d'abord pensés pour elle. C'est vrai de l'euro, on réfléchit davantage à l'euro, son organisation interne que l'euro comme monnaie internationale. C'est vrai de la question de la libre circulation. On réfléchit aux frontières internes, à la libre circulation, mais pas tellement aux frontières extérieures. C'est vrai de la concurrence. On se penche sur les conditions de la concurrence à l'intérieur de l'Union européenne, mais pas tellement par rapport à l'extérieur. Et je crois que c'est ça qui caractérise cette période-là. Plus qu'une léthargie, c'est l'illusion d'une Europe qui pense, je crois que la formule de Luc Van Mibella est excellente, qu'elle va étendre son modèle. Elle a aujourd'hui compris qu'elle doit simplement, et ce serait déjà beaucoup, se résoudre à le défendre.
Alors l'Europe qui est tournée sur elle-même, elle n'a pas vu venir un certain nombre de crises. Je vais les lister parce que on a pu un peu les oublier. 2008, la crise financière importée des États-Unis. 2010, la crise de l'euro avec la Grèce en point de mire. 2014, la crise ukrainienne, un risque d'affrontement avec la Russie. 2015, évidemment, la crise des migrants et la perception d'une invasion. 2016, le Brexit, le risque d'une contagion et de l'éclatement de l'Union européenne. Et puis 2017, Trump à la Maison Blanche, autant dire une crise atlantique. Et les crises, Luc Van Mibella, c'est pas dans l'ADN de l'Europe, hein, surtout quand il faut les gérer. L'Europe produit des règles, des normes pour unifier et fluidifier ce fameux grand marché unique. Elle n'est pas vraiment outillée pour gérer les crises qui nécessitent de prendre des décisions. Or, qui est susceptible de prendre des décisions en Europe?
Oui, ça change tout pour moi. Comme vous l'avez dit, l'Union européenne, à la base, n'est pas du tout équipée pour faire face à des situations dangereuses, à prendre des décisions immédiates. Elle est parfaitement équipée pour enchevêtrer patiemment des intérêts économiques entre des partenaires, des partis, des pays. Et ça peut durer du style 5-7 ans entre une idée à Bruxelles et que ça soit dans le journal officiel. Mais quand vous êtes confronté à une crise immédiate. Quand, par exemple, vous l'avez cité, en Grèce, en 2010, le pays risquait de faire faillite avec une contagion possible sur les marchés financiers, etc., il fallait agir et décider en 72 heures de trouver, en l'occurrence, c'était 500 milliards d'euros. Il y a eu d'autres moments vraiment de haute tension où les responsables politiques n'avaient pas tout ce temps à leur disponibilité et qui devaient donc s'organiser et ce que j'appelle improviser. Et ça change deux choses. Pour moi, ça change d'une part le personnel politique, qui décide, qui agit, Et d'autre part, très important aussi, pour ceux qui nous écoutent, ça change aussi l'expérience du public, des gens. Pour le personnel politique, je dirais qu'on voit un basculement un petit peu du centre de gravité de la commission des institutions bruxelloises vers ce qu'on appelle le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire qui est au premier plan lors des crises. C'est Mme Merkel, chancelière allemande, c'est les présidents, Sarkozy, Hollande, Macron, c'est les premiers ministres italiens, néerlandais, etc., avec aussi, bien sûr, les institutions à Bruxelles, la Banque centrale à Francfort. Mais c'est-à-dire, l'action inclut beaucoup plus les dirigeants nationaux, qui, eux, c'est vraiment eux qui sont à la manette.
Alors, c'est vrai que le moment décisif dans la crise de l'euro, c'est quand Angela Merkel a dit ce n'est plus « sauvons la Grèce » qu'il faut, maintenant, sauver l'euro. Et à partir du moment où il faut sauver l'euro, on trouve les moyens plus ou moins bons, on les trouve plus ou moins rapidement, mais on finit par les trouver, les moyens pour sauver l'euro.
Oui, c'est-à-dire à ce moment-là, donc là on est en 2010, Angela Merkel a fait appel, disons, à la volonté politique, voire historique de l'Allemagne de sauver le projet européen, de sauver aussi la relation franco-allemande. Au-delà de sauver la Grèce pour des raisons économiques et financières, il y avait aussi cette idée, l'Europe en tant que telle, est en danger et en tant que dirigeante allemande, elle se sentait responsable et elle a aussi porté ce message à l'opinion publique. Parce que ça, c'est l'autre changement que je disais, c'est que l'ancienne Europe de la politique de la règle, le grand marché, etc., c'était terriblement ennuyeux.
Oui,
c'était à mourir, tout le monde.
Pour caricaturer, quand l'Union européenne dit pour chaque mètre carré, on peut mettre un certain nombre de poules dans un élevage, et pas plus. C'était le type
toutes droites.
Je caricature un peu, mais ça a été ça.
Et maintenant, avec des décisions sur la migration. Sur des centaines de millions d'euros pour l'euro, des questions de quasiment de guerre et de paix à nos frontières, ça intéresse beaucoup plus évidemment les électeurs. Ils veulent avoir aussi une prise sur ces décisions. Ils veulent être impliqués, que ce soit dans leur capitale ou en Europe, et ça change toute la dynamique.
Chaque crise met en cause la survie même de l'Union européenne. Si l'euro s'effondre, l'Union européenne peut tomber avec elle. Si l'Union européenne n'arrive pas à juguler ce flot de migrants, c'est tout l'équilibre, c'est tout l'édifice qui risque de tomber, etc., etc. À chaque fois, l'Union européenne, à chaque crise, est assez proche du précipice.
Oui, et ça, c'est aussi une faiblesse du système, disons. On dit quand même que gouverner, c'est prévoir. Et cette Union européenne, elle n'arrive souvent qu'à agir qu'au dernier moment, quand elle est, en effet, avec le dos contre le mur et le couteau sous la gorge, pour ainsi dire. Et elle s'en sort, mais toujours sur le tard. Donc c'est un petit peu anxiogène aussi comme système de gouvernance. Mais c'est comme ça. Et ça montre aussi que, l'Union européenne, c'est... Le nom le dit, c'est une union, ce n'est pas un seul État. Et donc, il y a des États membres qui ont tous des points de vue, des intérêts, des visions de l'avenir différents et qu'il faut, à chaque fois, il faut trouver des accords, le consensus, des compromis, etc. Et souvent, il faut vraiment que la situation soit très grave pour qu'on en arrive là.
Gilles Finkielkraut, vous avez bien envie de réagir sur cette Europe qui joue tout le temps un peu les équilibristes, un peu les acrobates pratiquement, et qui trouve une solution pas forcément toujours la bonne, mais enfin qui tarde un peu à la trouver, et toujours sur le fil du rasoir.
Oui, je voudrais réagir sur deux points. Le premier, c'est gouverner, c'est prévoir, disait Luc Van Medela, et vous pointiez avant lui les différentes crises que l'Europe a dû surmonter depuis plus de 10 ans. Mais cette difficulté-là, tous les gouvernements européens, mais aussi nationaux, sont confrontés exactement à la même chose dans la mesure où il est de plus en plus difficile de prévoir et dans la mesure où de plus en plus les mandats sont percutés, perturbés par un événement extérieur. Pour s'en tenir au dernier mandat des présidents de la République française, le mandat sur lequel Nicolas Sarkozy a été élu en 2007 a été percuté par la crise financière de 2008-2010. Le mandat de François Hollande a été percuté par les attentats et par la crise migratoire, et le mandat d'Emmanuel Macron a été percuté lui aussi par un événement extérieur qui était la pandémie. Donc c'est aujourd'hui le lot commun de tous les gouvernements, qu'ils soient nationaux ou européens. Et je crois que cette idée de la prévisibilité des gouvernements est de plus en plus difficile à tenir. La deuxième remarque, c'est, vous disiez tout à l'heure, Angela Merkel disait, le changement, c'est quand Angela Merkel dit qu'il faut sauver l'euro. L'Europe a toujours été un projet politique, depuis son origine. Il y a même, apparemment, c'est éminemment un projet politique. Et l'euro n'est pas un projet technique, l'euro est un projet politique. Mais ce qui faisait sa spécificité, c'est que les outils qu'elle utilisait étaient davantage des outils juridique que des choix discrétionnaires, et ça tient à la raison qu'évoquait tout à l'heure Luc Van Middelaar, le fait que ce ne soit pas un gouvernement, que ce soit pas un État, mais que ce soit une union d'États. Et donc, on a préféré la norme à la politique, on a préféré ce qui était des règles sur lesquelles on se mettait préalablement d'accord sur le rapport de force politique à un moment donné. Le problème, c'est quand la règle n'apporte pas de réponse à une crise. Et le problème, et c'est ça qu'on a vu aussi avec l'euro, et c'est je trouve une des difficultés à laquelle est de plus en plus confrontée l'Europe depuis 10 ans, c'est que le calendrier, le timing des prises de décision est de moins en moins approprié à la virulence des crises qui se succèdent.
Luc Van Middelaar, qu'est-ce que l'Europe a appris des crises? Que justement, ce que vient de dire Gilles Finkelstein, c'est que le primat du politique sur la règle, une prise de conscience que le monde a changé, que l'Europe, elle avait des valeurs évidemment à défendre, qu'elle met souvent en avant, mais qu'elle a aussi des intérêts à défendre. Elle a pris tout ça un petit peu, comme on dit en français, à l'insu de son plein gré.
Oui, mais je crois que quand on regarde et quand on compare les débats politiques actuels à il y a 10 ans, il y a quand même des changements. Et donc il y a quand même eu des leçons qui ont été apprises. Je prends pour exemple le Brexit. La décision de l'électorat britannique de préférer 52% contre 48% de quitter l'Union européenne. Ça a été un très grand choc pour toute l'Europe, pour tous les autres pays aussi, dont la France. Vous l'avez rappelé, on craignait la contagion ou
l'éclatement.
L'éclatement, le Frexit, le Nexit, etc. Je crois qu'à partir de ce moment-là, on peut quand même constater un changement de discours. C'est-à-dire, le message du Brexit a été entendu, bien sûr. Je nuance, il y a aussi des gens qui pensaient que voilà, c'était uniquement une idiosyncrasie anglaise, c'est à la faute à la presse de Rupert Murdoch et tout ça.
Les fameux tabloïds.
Mais je trouve que des gens plus sérieux, plus responsables ont compris que ce que les électeurs britanniques ont dit là, les attentes, les craintes qu'ils ont exprimées, que c'était aussi les attentes et les craintes d'une bonne partie de nos opinions publiques. Je parle, disons, de l'Europe de l'Ouest où nous sommes, la France, les Pays-Bas, l'Italie et d'autres. Et c'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont dit, ces électeurs? Ils ont dit, voilà, votre Europe telle qu'elle existe, c'est uniquement des libertés. C'est très bien pour les gens qui aiment voyager, qui parlent, qui jonglent aisément entre les langues, le monde des affaires, etc. Cette Europe opportunité, elle n'est pas pour nous, parce que pour nous, l'Europe, c'est aussi une menace contre des choses à laquelle nous on tient, que ce soit l'emploi, que ce soit des sujets liés à la migration ou la grande géopolitique. Et là, on voit vraiment un basculement de discours, pas uniquement en France, où c'était déjà audible avant, mais où on parle d'une Europe qui protège. C'est une formule qui est aujourd'hui aussi reprise par des pays comme le mien, les Pays-Bas, qui étaient plutôt réticents.
Et très libéral.
Très libéral, libre-échange, atlanticiste, etc. Et dès qu'on disait protection à la haie, ils gueulent tout de suite protectionnisme, et c'est français, je ne sais pas quoi. Tandis que là, on cherche, entre institutions et gouvernements, un nouvel équilibre, disons, entre liberté d'une part et protection d'autre part. Et ça, je trouve que c'est très sain, c'est une vraie prise de conscience qui a trait aussi à ce que vous disiez au début, c'est-à-dire une prise de conscience des changements dans le monde et qu'il faut non pas uniquement créer des opportunités pour les citoyens, mais il faut aussi savoir se défendre, comme on disait tout à l'heure avec Gilles Finkelstein aussi.
Gilles Finkelstein, vous vouliez réagir à ce que vient de dire Luc Van Middelaar, je crois?
Oui, je crois qu'il a raison de dire que le Brexit a été un grand choc, a été une grande inquiétude, l'idée d'une série de dominos qui allaient tomber les uns après les autres était une grande peur. Et en fait, il s'est passé exactement l'inverse. Pour partie, pour la raison que Luc vient d'évoquer, c'est-à-dire le message du Brexit a été entendu. Il y a eu un certain nombre d'inflexions qui ont été notables dans la conduite des politiques européennes. Et pour partie parce que les opinions elles-mêmes ont modifié leur rapport à l'Europe quand elles ont vu les Britanniques s'éloigner. Et il y a eu une forme de patriotisme européen, de resserrement autour du drapeau. On s'est aperçu à quel point l'Europe, sans même qu'on s'en aperçoive, nous était chère, nous importait. Et ce double mouvement des opinions d'un côté et des politiques de l'autre a produit un effet. Quand on regarde le champ politique, les champs politiques nationaux aujourd'hui dans leur rapport à l'Union européenne, c'est que les partis populistes qui étaient les plus hostiles à l'Union européenne, je pense par exemple à la Ligue en Italie ou au Rassemblement national en France, ont été contraints, peut-être de manière tactique, peut-être sans y croire vraiment, mais de modifier au moins en partie la position qu'ils avaient autour de l'Europe. Et ça, ce sont vraiment les conséquences, et peut-être les conséquences inattendues du Brexit.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desescales.
Carrefour de l'Europe, l'Europe est-elle en train de perdre son innocence? Nous sommes avec Luc Van Middelaar, philosophe politique néerlandais, historien, professeur de droit européen à l'université de Leiden. Son dernier livre, Quand l'Europe improvise, chez Gallimard, et avec Gilles Finkenstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès. Alors, avec la montée en puissance de la Chine, l'autoritarisme belliqueux de la Russie ou de la Turquie, et Donald Trump à la Maison-Blanche, le monde a changé et l'Europe a eu un peu le mal à le comprendre, car l'Europe ne s'était jamais vu comme un acteur sur la scène mondiale, Luc Van Middelaar.
Oui, l'Europe s'est construite en fait sur un déni même de toute idée de géopolitique, de pensée stratégique qu'on voit aujourd'hui qui est nécessaire, puisque après la Seconde Guerre et les catastrophes qu'il avait précédées, l'Union européenne s'est construite sur l'idée de ne pas avoir de frontières, par exemple, d'éviter la politique de la puissance, et de pas trop réfléchir sur notre rapport au passé. C'était l'idée de tirer une ligne sur le passé, de commencer à nouveau avec cette promesse d'un monde qui allait nous amener vers la fin de l'histoire, comme on a dit après 89. C'est pas comme ça aujourd'hui que les choses se jouent. Je pense que ce qui est décisif dans cette affaire, c'est l'émergence de la Chine de Xi Jinping, je dois dire, donc non pas uniquement un géant économique, mais aussi une superpuissance politique, puisque ça a des effets considérables sur notre rapport, d'abord des effets considérables sur les États-Unis, qui eux sont défiés et sont mis au défi par une autre grande puissance qui presque veut détrôner les États-Unis. Dans leur statut vraiment de numéro un du monde qu'ils avaient depuis au moins 89, si ce n'est que depuis 45. Et ça change donc aussi géographiquement, on en parle depuis quelques années, les États-Unis se tournent donc vers l'Asie, vers le Pacifique, pivot asiatique, mais ça veut dire aussi, de notre point de vue, que les États-Unis... Quand je dis notre, je dis Europe. Les États-Unis se détournent de l'Europe et de l'Atlantique, en quelque sorte.
On va revenir dans un instant. Vous avez évoqué, évidemment, comment l'Europe peut se situer entre la Chine et les États-Unis, bien sûr. Mais on va y revenir dans un instant. Mais à un moment, vous avez dit l'Europe doit réfléchir. Réfléchir à, par exemple, où s'arrêtent ses frontières. Réfléchir un peu à savoir ce que l'on est dans ce monde. Qui sommes-nous? Est-ce qu'on est un club chrétien, un club continental, un club civilisationnel? Enfin, toutes ces questions, l'Europe ne se les est jamais posées. Enfin, voilà, ça passait un peu au-dessus de la tête.
Oui, l'Europe était dans une pensée universelle, avec les valeurs des droits de l'homme, la démocratie, la liberté, en train de réaliser ces valeurs sur le continent européen, encore une fois, dans l'idée aussi de les propager dans le monde entier. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, voilà, quand la Chine, désolé de revenir sur la Chine, mais quand la Chine dit, voilà, vous êtes bien sympathique de parler de valeurs universelles, mais ce ne sont là pas nos valeurs. Qu'est-ce qu'on dit ? Hein ? Politiquement, ça devient difficile de dire que ce sont des valeurs universelles. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas les défendre, qu'on doit y tenir, et que ça relève vraiment de qui nous sommes. Mais c'est pour ça que j'évoque des mots comme civilisation, histoire, des mots qui aujourd'hui deviennent parfois même difficiles dans le débat. Mais si on n'ose plus les invoquer, si on pense uniquement pouvoir faire appel à l'universel pour réfléchir sur l'Europe, ça devient très difficile. Et ça fait, en fait, le résultat net, ça serait un nationalisme des nations européennes individuelles.
Un retour au monde d'avant, pour le coup, d'avant-avant. De la nécessité de savoir qui l'on est pour savoir où l'on va, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Luc Van Middelaar, à en croire l'un de vos compatriotes, qui s'appelle Hans Scribe, et je pense que vous le connaissez bien forcément, l'Union européenne doit grandir, elle doit devenir adulte et montrer les dents sur la scène internationale. Elle doit même faire preuve de cynisme.
Oui Daniel, et par montrer les dents, le néerlandais Hans Scribe entend devenir plus pragmatique, voire plus cynique. L'Europe, explique cet expert en politique internationale, évolue dans un monde où les autocrates, les hommes forts, sont rois. On peut citer Xi Jinping en Chine, Jair Bolsonaro au Brésil, mais aussi plus proche du continent, le turc Recep Tayyip Erdogan et le russe Vladimir Poutine. Face à eux, l'UE doit apprendre à parler le langage du pouvoir et mettre de côté ses leçons sur la démocratie, affirme-t-il au quotidien néerlandais de Volkskrant. Concrètement, selon lui, l'UE doit être capable de poser des limites aux leaders autoritaires, certes, mais aussi de conclure avec eux des accords lorsque ses intérêts les exige. Un exemple, l'Égypte. D'après Hans Scribe, vendre des armes au régime d'Al-Sisi pour lutter contre le terrorisme est acceptable. La priorité, c'est la stabilité du pays et par extension celle de l'Europe. Il faut dire que le néerlandais est bien placé pour savoir que certains dirigeants pensent le monde en termes de rapport de force. Jusqu'en 2015, son cabinet de conseil en affaires européennes comptait parmi ses clients les autorités russes pour qui le monde se compose de plusieurs blocs qui défendent leurs intérêts. L'Europe, assure-t-il, ferait bien de s'inspiré de cette grille de lecture.
Alors justement, Sacha, pourquoi l'Europe n'arrive-t-elle pas, pour le moment en tout cas, à faire preuve de plus de réalisme ?
Eh bien, selon Scribe, si l'Europe peine à employer le langage du pouvoir, c'est d'abord, bien sûr, à cause des éternelles divisions entre ses États membres, dont les intérêts divergent. Mais il existe aussi une aversion pour le pouvoir profondément ancrée dans la culture et l'histoire du continent. L'Union européenne, rappelle Scribe, s'est construite sur des lois et des règles précisément pour mettre fin à la politique agressive et désastreuse qui a jeté tout le continent dans deux guerres mondiales. Dès le départ, elle s'est présentée comme une puissance positive, toujours prête à défendre la démocratie et les droits humains, et un ordre international fondé sur des règles. Pendant des décennies, les Européens ont aussi volontiers cédé l'exercice du pouvoir aux États-Unis. Mais à présent que l'Europe ne peut plus systématiquement compter sur le soutien américain et qu'elle se trouve de plus en plus souvent confrontée à des dirigeants autoritaires à ses frontières, c'est ce que conclut Scribe, elle doit apprendre à se défendre toute seule, à penser davantage en termes de camp, de nous contre eux.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, Leblo et courrierinternational.com, le site. Luc Van Middelaar, ce que vient de dire Hans Scribe, votre compatriote, hein, c'est un appel à la réelle politique.
Oui, tout à fait. Il dit que l'Europe doit être moins naïve face à des gens comme Erdogan, Poutine et Xi Jinping et qu'elle doit apprendre à jouer sur différents plans, c'est-à-dire, bien sûr, nous voulons et nous devons défendre nos valeurs en tant qu'Européens, mais il y a aussi des intérêts, il y a aussi des jeux où il faut essayer de ne pas être dupe en sachant que ces acteurs-là, Erdogan, Poutine, ils entrent sur la scène mondiale avec toutes les astuces et tous les tricks possible et ne se gêne pas de nous embarrasser, comme on a encore vu d'ailleurs la semaine passée lors d'une visite des deux présidents de l'Union européenne à Ankara avec Erdogan qui a pas offert un siège correct à
Madame. Deux chaises
à Madame.
pour trois dirigeants et Madame Ursula von der Leyen est restée sur le canapé. Hein.
C'est typique, on peut dire une erreur protocolaire, mais c'est aussi sans doute une volonté turque d'embarrasser l'Union européenne, parce que là, tous les moyens sont bons. Hein, pareil, quand le haut représentant Josep Borrell de l'Union européenne est allé visiter Moscou il y a un mois ou six semaines, je ne sais plus exactement, lui aussi, il a été
Et qu'il apprend pendant la conférence de presse, qu'il apprend que la Russie a expulsé des diplomates européens.
Voilà. Donc, mais le truc, c'est qu'il faut s'attendre à un tel comportement et il ne faut pas être naïf et innocent. On ne va pas rendre visite à un boxeur dans un maillot de bain.
Les mains dans les poches. Gilles Finkelstein, est-ce que l'Europe est prête à affronter la réelle politique, c'est-à-dire un monde qui n'est pas forcément un monde de bisounours?
Elle y est contrainte et je pense qu'elle elle l'a compris. L'Europe, dès l'origine, de l'Union européenne, s'est construite sur des valeurs. Et il n'y a pas eu totalement un déni, comme le disait Luc tout à l'heure, il y a eu, disons, un demi-déni, parce que il y a eu, disons, une tentative, notamment au moment de l'élaboration de la Constitution européenne, de mettre sur le papier et de mettre en débat ce qu'était notre histoire, ce qu'étaient nos valeurs. Bon, mais ce projet a avorté pour des raisons qui tiennent à la fois, notamment à la France et aux Pays-Bas, et donc ça a été, disons, un demi-déni. Depuis, cette question des valeurs, on croyait que c'était l'objet d'un consensus, non seulement d'un consensus entre Européens, mais même on avait l'espoir que ce soit un consensus international, un consensus universel, et on voit les divergences qui apparaissent non seulement avec d'autres grandes puissances, et au premier rang la Chine ou la Turquie, ou même les États-Unis, mais on voit qu'il y a des divergences qui apparaissent aussi à l'intérieur même de l'Union européenne sur ce socle commun de valeurs. Et donc, ma conviction profonde est que ce modèle européen existe, que les citoyens ne le savent pas nécessairement et que l'enjeu pour l'Union aujourd'hui est à la fois de le penser, de l'affirmer et de le défendre. Et que ce modèle est un modèle dans lequel il y a des valeurs, mais il y a aussi des intérêts. Et donc cet équilibre, qui est un équilibre classique, qui est une question classique de l'équilibre entre la défense des valeurs et la défense des intérêts, eh bien c'est ça qui doit être au cœur du débat public.
Et ce que remet en évidence notamment Emmanuel Macron, mais il n'est pas le seul, c'est l'idée d'une souveraineté européenne pour faire face à ce monde qui change. Ne regardons pas forcément dans chaque capitale, dans chaque petite chapelle, on va dire. Regardons un petit peu à quel niveau peut s'exercer la souveraineté des citoyens européens. Eh bien, c'est très souvent, dit Emmanuel Macron, au niveau de la souveraineté européenne. C'était il y a 10 ans. Des propos iconoclastes, de plus en plus de dirigeants européens, si ce n'est le partage, en tout cas, écoutent ce point de vue. Par exemple, quand Angela Merkel dit « Nous, les Européens, nous devons prendre notre destin en commun », d'une certaine façon, elle dit la même chose qu'Angela Merkel. Quand Ursula von der Leyen dit « Ma commission sera une commission géopolitique », elle dit des choses à peu près voisines. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des dirigeants et des citoyens? Je rendrai la parole à Gilles Finkelstein pour savoir si les citoyens européens sont conscients, car vous avez mené une enquête sur le sujet. Cette idée de souveraineté européenne, qui est une réponse européenne à ce monde qui évolue et qui n'évolue pas forcément dans le sens que les Européens le souhaitent, est-ce que c'est la bonne idée, le bon degré de valeur?
Je crois absolument que c'est la bonne idée. Je crois aussi que ça témoigne d'une prise de conscience, parmi les dirigeants au moins, d'une vulnérabilité stratégique et politique de l'Europe. Les mots que d'Angela Merkel, que vous venez de citer, elle les a prononcés au début de la période de Trump, où les Européens ont compris, nous ne pouvons plus compter sur le protecteur américain. Emmanuel Macron, avec son terme de souveraineté européenne, c'est un terme très marquant, je dois dire. Il n'est pas toujours très pratique. Je le dis aussi en tant que néerlandais, à pratiquer dans d'autres langues ou autres traditions institutionnelles.
Ça se traduit à peine en néerlandais. Hein.
Oui, parce que là, souveraineté, on est tout de suite dans le super-État européen. Et ce n'est pas forcément, je pense, l'idée que veut communiquer le président de la République non plus. Parce que quand lui, il parle de souveraineté européenne, dans l'esprit français, ça veut dire une capacité d'agir, d'action, de faire, faire notre poids dans le monde en tant que club d'État. Et ça ne veut pas forcément dire une grande rénovation, refondation constitutionnelle. Mais dans le fond, tous les termes que vous avez cités, j'ajouterai celui d'autonomie stratégique, qui est aujourd'hui très à la mode, et qui est récemment, pour la première fois, agréé, où tous les chefs d'État ont donné leur accord à cette idée de autonomie stratégique. Donc, c'est un peu la traduction un petit peu plus modeste, disons, de la souveraineté de Macron. Et ce n'est pas un hasard que c'était en pleine pandémie qu'ils ont décidé ça. Parce que là encore, vous vous souvenez de la lutte planétaire pour l'équipement médical. On a vraiment senti, ressenti cette vulnérabilité quasiment dans notre peau.
Gilles Finkelstein, pour la Fondation Jaurès, vous avez mené une grande enquête pan-européenne sur 8 pays, si je me souviens bien, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, sur le thème de la souveraineté européenne. Alors, Luc Van Middelaar vient de parler aussi d'autonomie stratégique, on parle aussi parfois d'Europe puissance. Lorsqu'on parle de souveraineté européenne, ça n'a pas forcément le même sens à Paris qu'à Berlin, à Stockholm qu'en Roumanie, par exemple, qu'à Bucarest.
Oui, vous avez raison, c'est d'ailleurs précisément parce que nous sommes interrogés alors que l'on voyait que ce concept de souveraineté européenne, qui originellement était un concept assez largement français, qui a été évoqué par François Hollande devant le Parlement européen pendant son mandat, qui a été repris fortement par Emmanuel Macron dans le discours de la Sorbonne, nous nous demandions comment ce concept-là était compris, reçu dans d'autres pays. Alors, on a eu l'occasion de faire cette enquête auprès d'un échantillon représentatif dans 8 pays. Alors, malheureusement, pas les Pays-Bas, mais il y avait les 5 pays les plus peuplés de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, un autre pays d'Europe centrale et orientale qui était la Roumanie, un pays scandinave qui était la Suède et un pays balte qui était la Lettonie. Et ce qui nous a beaucoup frappé, c'est que le mot de souveraineté, pour les Européens qu'on a interrogés, d'abord est synonyme d'indépendance et qu'il est connoté positivement à peu près partout, qu'ils voient bien ce qui est loin d'être évident, le sens, ils disent comprendre le sens de ce mot de souveraineté européenne à 63%, ils considèrent majoritairement que c'est une idée qui est complémentaire de l'idée de souveraineté nationale. Là aussi, rien n'était évident. Et surtout, et c'est je crois l'élément le plus important par rapport à la réflexion et à la discussion que l'on a aujourd'hui, c'est que la souveraineté européenne est une perspective souhaitable pour 73% des Européens qui souhaitent que cette souveraineté se renforce comme une réponse aux menaces, aux défis globaux que l'Union européenne doit affronter. Donc, on a été surpris, et c'est-à-dire l'Européen que je suis, agréablement surpris par cette enquête, avec, je termine par là, une petite ironie de l'histoire, que le pays dans lequel ce concept est sans doute jugé le moins positivement, je mets, disons, l'Italie à part, l'autre pays dans lequel ce concept est jugé moins positivement, eh bien, c'est la France. C'est la France qui a promu la souveraineté européenne et dans laquelle, plus qu'ailleurs, parce que le mot de souveraineté renvoie, et ça a été aussi une des grandes surprises de cette enquête, à un univers monarchique extrêmement puissant, eh bien, le mot est beaucoup moins positif qu'il ne l'est ailleurs, même si, je termine vraiment par là, les Français, quand même majoritairement, souhaitent que la souveraineté européenne se renforce aussi.
Peut-être que la souveraineté européenne, c'est d'un mot peut-être plus d'Europe dans tous les domaines. C'est peut-être ça la notion de souveraineté européenne. En tout cas, elle se décline par rapport à la Chine, par rapport aux États-Unis. Par rapport à la Chine, du grand Middelaar, l'Europe a réfléchi et elle a imaginer un document stratégique, c'est la Commission européenne qui a planché. Alors, je le résume, hein. Pour les Européens, la Chine est à la fois un partenaire, par exemple, lorsqu'il faut discuter du climat, du réchauffement climatique, eh ben, il faut en discuter avec la Chine, qui est évidemment un grand pollueur, un grand producteur de gaz à effet de serre. La Chine est évidemment un concurrent économique, un concurrent dans le domaine des hautes technologies, et puis aussi elle est un rival stratégique, parce que elle incarne un modèle autoritaire qui n'est pas le nôtre. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on on peut avancer avec un document comme celui-ci? Est-ce qu'on peut être à la fois un partenaire et un rival stratégique? Ça paraît relativement antinomique. Est-ce que la réflexion de l'Union européenne est allée jusqu'au bout?
Oui, je crois qu'il faut faire un pas en arrière et d'abord noter que ce document même et ce triptyque, en quelque sorte, de ces 3 rôles que la Chine joue simultanément pour l'Union européenne et pour l'Europe, c'était quand même une percée stratégique fondamentale.
C'est un plus.
Que par rapport à ce qu'on a dit en début d'émission, par rapport à une Europe qui croyait que le monde entier était composé soit de partenaires, soit des concurrents, elle ajoute maintenant cette idée de rivalité systémique. C'est-à-dire, elle reconnaît pour la première fois que tous les pays ne vont pas forcément reprendre notre modèle et que c'est bien dans le temps long que nous aurons à faire avec des régimes avec d'autres valeurs. Et ça, c'est une vraie, pour moi, une vraie prise de conscience. C'est le printemps 2019, ce document. Et donc, il ne faut pas le balayer d'un revers de main. Ensuite, la vraie question maintenant, et là, vous avez raison, Daniel Desesquel, c'est que comment faire maintenant? Comment est-ce qu'on peut articuler ces trois rôles, et notamment, comment est-ce qu'on peut être à la fois partenaire de la Chine, par exemple, pour un travail sur le climat, ou voire pour, par rapport à l'Afrique, ou à d'autres sujets de politique internationale, et être dans cette rivalité systématique, et par exemple, avoir des sanctions par rapport à la situation des Ouïghours en Chine de l'Ouest, etc. Et aussi, comment est-ce que la Chine va réagir à cette, par exemple, aux sanctions que l'Union européenne a prises il y a 15 jours, plus ou moins. Donc ça, c'est toute la difficulté. Et moi, je regrette, pour ma part, que la réflexion qui avait été entamée donc, par ce document vraiment stratégique a été un petit peu à l'arrêt depuis lors. Et on le voit dans le silence un peu hypocrite, presque des gouvernements suite à l'accord Europe-Chine qui a été conclu en fin d'année 2020 sur un accord d'investissement après de très longues négociations, un dossier fondamental. Mais cet accord n'est pas vraiment défendu par les gouvernements, par la chancelière allemande qui l'a poussé pour l'avoir. Et face à des critiques qui se lèvent maintenant, par exemple au Parlement européen, aussi dans les opinions nationales contre cet accord, au nom de cette rivalité systématique, parce qu'on n'aime pas le système de valeurs de la Chine.
Et puis au nom des valeurs européennes.
Et y a, ce qui manque, c'est des gouvernements qui disent bah, « c'est très bien, les valeurs, mais il y a aussi des intérêts économiques, et je traduis « emploi ». Prospérité et sécurité. Et comment est-ce qu'on va organiser une prise de décision, un jugement politique où on peut articuler et trouver des équilibres, Gilles Finkelstein en a parlé aussi auparavant, entre valeurs et intérêts. Ça, c'est toute la difficulté. Et pour moi, c'est le grand défi pour la politique chinoise de l'Europe pour les années à venir.
Gilles Finkelstein, d'un mot, c'est pas facile hein, de s'opposer à la Chine lorsque qui ne supporte difficilement les critiques, notamment à l'égard des Ouïghours. Et quand on voit les sanctions suite aux révélations du travail forcé des Ouïghours, donc en retour des sanctions contre des universitaires et des eurodéputés, par exemple en France, le député Raphaël Glucksmann, c'est pas facile de sortir de cette innocence et c'est pas sans conséquence.
Non, la Chine n'aime pas les critiques et pas seulement quand c'est pour les Ouïghours. La Chine n'aime pas les critiques de manière générale, ce qui renforce, je crois, la nécessité qu'évoquait Luc Grandmédélar tout à l'heure d'aller jusqu'au bout de cette réflexion sur les partenaires, les adversaires, les rivalités systémiques. Et il pointait les difficultés en parlant notamment de la Chine. Il y a une autre difficulté qui m'a beaucoup frappé dans l'enquête que je viens d'évoquer, c'est qu'on voit l'importance pour chaque pays de son histoire et de sa géographie dans l'analyse qu'elle fait elle-même de ce que sont les menaces et de ce que sont donc ses partenaires, ses adversaires et ses rivaux. Je disais tout à l'heure qu'une des les raisons qui expliquaient ce soutien au renforcement de la souveraineté européenne dans les pays européens étaient les grands défis globaux, le défi du changement climatique, la menace sanitaire, la menace terroriste. Mais quand on va un tout petit peu plus loin et que l'on regarde par rapport aux volontés de puissance des différents grands ensembles, ceux qui prédominent dans chacun des pays, on voit à ce moment-là l'importance de l'histoire et de la géographie. En France, en Italie, en Suède, on dit d'abord c'est la volonté de puissance de la Chine qui impose de renforcer la souveraineté européenne. Mais quand on se tourne vers l'Allemagne, quand on se tourne vers l'Espagne, ils disent c'est d'abord la volonté de puissance des États-Unis. Et quand on se tourne cette fois-ci vers la Pologne ou vers la Lettonie, ils disent c'est la volonté de puissance de la Russie. Donc, on voit que chacun, en fonction de sa culture, son histoire, sa géographie, n'a pas la même hiérarchie des menaces. Ça, c'est vrai pour les peuples, mais c'est vrai pas seulement pour les peuples, c'est vrai sans doute aussi largement pour les gouvernements, et ça ne rend que plus nécessaire, même si c'est difficile, d'aller jusqu'au bout de ce travail.
Luc Van Miller, d'un seul petit mot, un mot sur les États-Unis, la relation avec les États-Unis, ce que les Américains attendent des Européens dans leur grand combat avec la Chine, c'est une allégeance. Alors évidemment, les États-Unis, c'est pas la Chine pour les Européens, c'est à la fois un partenaire, un concurrent, mais un allié, ce qui fait évidemment une grande différence. Mais voilà, est-ce que les Européens ont une possibilité de ne pas simplement jouer les vassaux, être jouer l'allégeance à l'égard des États-Unis dans cette confrontation des États-Unis avec la Chine, d'un mot.
Ouais, ça, c'est le grand risque. C'est effectivement le scénario qui se prépare à Washington et sous Biden, non moins que sous Donald Trump.
À ce niveau-là, il n'y a pas de changement entre Donald Trump et Joe Biden.
Il y a vraiment la continuité. Biden ne peut pas se permettre de faire la bonhomie vis-à-vis de Xi Jinping, puisqu'il accentue encore davantage toute la thématique des valeurs et de la démocratie, des droits de l'homme. Ce n'était pas vraiment le truc de Donald Trump, comme vous vous souvenez. Ce conflit prend encore des tournures un peu plus difficiles à certains égards. Et voilà, l'appel des Américains, rejoignez-nous, les Européens, dans cette grande bataille guerre froide, nouvelle version, la lutte du bien contre le mal. Voilà, on aura peut-être du mal à résister contre ce récit un peu séducteur, parce qu'évidemment, nous, on sera placés du côté du bien. Mais il ne faut pas se tromper, parce que la guerre froide avec la Chine, ça va être autre chose que contre l'Union soviétique lors de la première performance.
Alors, vous avez évoqué à l'instant le mot de récit. Est-ce qu'il est temps pour les Européens de réécrire un récit ? Longtemps, le récit de l'Europe, ça a été la paix, la prospérité, l'état de droit, le respect des minorités. Voilà. C'est un petit peu daté. Ça parle plus tellement aux jeunes générations. La paix leur paraît une évidence, peut-être à tort. La prospérité leur paraît aussi une évidence, encore à tort, car tout est évidemment fragile et menacé à tout moment. Quel récit l'Europe peut-elle écrire pour les Européens, cette idée de souveraineté européenne, justement pour défendre notre mode de vie, nos valeurs qui nous sont propres et qui sont de moins en moins partagées à la surface du globe, c'est un peu ça le récit futur de l'Europe ?
Oui, en partie. Je crois que pour la question du récit, il y a une question préalable qu'il faut se poser, c'est-à-dire qui est le protagoniste de ce récit ? Qui est le héros de ce récit ? Et la difficulté ou la faiblesse de beaucoup de discours européens, c'est que le protagoniste de ces récits, c'est l'intégration européenne de tout ce qui s'est fait depuis la Seconde Guerre, etc. On parle de monnaie, de SPAC, des grands hommes, etc. Et un récit comme ça, il est trop faible, il est trop ténu, si je peux dire, pour porter une vraie action géopolitique et stratégique dans le monde. Pour ça, il faut aller beaucoup plus en arrière dans le temps. Il faut oser invoquer et se revendiquer même d'une civilisation européenne qui est beaucoup plus ancienne, revenir aux Grecs et aux Romains, que sais-je, la Renaissance, les Lumières. Et d'ailleurs, c'est ce que font précisément et exactement aussi tous les rivaux et partenaires dont nous parlons, que ce soit Xi Jinping qui invoque le confucianisme aujourd'hui, Vladimir Poutine qui, à la différence des dirigeants de l'époque communiste, n'a plus peur de l'Église orthodoxe, etc. Donc il faut, pour moi, et je sais que c'est un sujet délicat aujourd'hui, mais il ne faut pas avoir peur des notions d'histoire, de civilisation, pour puiser ce récit et en faire le protagoniste pour nous penser vraiment dans le temps long, et ne pas nous couper de notre passé, parce que sinon on ne peut pas inventer un avenir ensemble.
Merci, Luc Van Middelaere, d'avoir écrit les premières lignes de ce premier chapitre d'un récit européen. Luc Van Middelaere, Gilles Finkelstein, merci à tous les deux d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation de Nassien Cahu avec Sacha Michel de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Et pour écouter ce Carrefour de l'Europe, RFI.fr, rubrique podcast, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée, par exemple Google, Apple ou Deezer. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Lesescales, où que vous soyez, à La Haye, Bruxelles, Leiden, Paris, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.